Ben bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on est avec JP et puis on a deux princesses, les deux princesses du Seigneur qui sont venues nous voir, qui Ruth et Claudia sont avec nous. Bienvenue Ruth et Claudia. Merci Seigneur. Et puis on a Marilyn, Hélène et puis JP qui est avec nous. Et puis ce soir, on va continuer l'étude de Jonas, mais avant de continuer, on aimerait quand même saluer les gens qui sont sur Internet, qui nous écoutent. J'ai eu des nouvelles des gens, je ne sais pas exactement d'où ils viennent. Mais ça, c'est le Seigneur qui fait ça. Il y a des gens qui nous ont écrit, qui nous remerciaient pour l'étude sur la prière, parce qu'ils ont une étude biblique à la maison ou chez eux, puis ils ont décidé d'entamer l'étude sur la prière en groupe, puis ils nous remerciaient d'avoir ces partages-là disponibles. Parce que comme j'ai dit au monsieur, gloire à Dieu, parce qu'il n'y a rien qui nous a pas été donné de faire. Il n'y a rien qu'on fait pas qui nous a pas été donné de faire par notre Père Céleste. Et puis, c'est pour sa gloire. Puis, on salue les gens à distance. Que Dieu vous bénisse, la famille Chabot vous bénisse. Et puis, si vous voulez, on va prier, on va mettre ça en prière. Puis après, on va commencer. Ben merci Seigneur pour ce privilège qu'on a de pouvoir être ensemble ce soir, pour partager ta parole, parce que ce qui est le plus important dans nos vies, ce moment qu'il y a maintenant, on confesse, Seigneur, que c'est le plus important de notre vie. Celui où on prend le temps de s'approcher de toi pour mieux te connaître. Et puis, Seigneur, ce soir, on veut proclamer, on veut te louer, t'adorer, et on veut proclamer que tu es notre grand Dieu, le Dieu souverain dans notre vie. Et puis, Seigneur, on veut s'approcher de toi, on veut mieux te connaître. On veut s'approprier ces promesses que tu nous as faites, car tu as dit, là où deux ou trois seront assemblés en mon nom, je serai parmi eux. Et puis, Seigneur, ce soir, on veut te réclamer cette promesse pour que tu viennes ouvrir les yeux de notre cœur, pour qu'on puisse recevoir ton enseignement, Seigneur, pour que tu puisses enlever de ce qu'il y a de mauvais dans nos cœurs et le remplacer par ta portion, pour qu'on puisse être de meilleurs représentants pour la gloire du nom de ton Fils Jésus, Seigneur, qu'on prie. Amen. Et puis, on avait fait les trois premiers partages sur le livre de Jonas, puis le dernier partage, on avait fait une petite exhortation. S'en souvenez-vous, je fais souvent des exhortations. Mais comme je vous dis, je fais ce que le Seigneur me met à cœur de faire, mais je reste un homme. Ça se peut que je me trompe et je vais me tromper encore souvent. Par la grâce de Dieu, je peux me relever et continuer. C'est ce qui me bénit. C'est que plus que j'étudie les Écritures, plus que je me rends compte que je peux pas me faire confiance à moi, mais je peux faire confiance à Dieu. Parce que sur mon Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté, et puis il est fidèle. Lui, il est fidèle. Même si nous, on échoue, lui, il est fidèle. Et puis, on avait fait un partage qui disait « revenir à Dieu ». Si je me trompe pas, oui. Et puis, on avait fait une petite révision. On a vu Jonas, il avait reçu la volonté, l'enseignement, la révélation de la volonté claire de Dieu, la volonté divine, qui dit « voilà, va à Nénive ». Et puis, il a dit « oui, moi, je vais vous parler ». Je m'en vais dans le sens opposé. Et puis Jonas, il est parti dans son entêtement. Il est allé au port de Joppa. Et puis, on avait fait une petite situation géographique, je ne sais pas si vous vous souvenez, où ce qui était Nénive et où ce qui est allé. Donc, Nénive était à 500 000 au nord de Nazareth. Il était à 3 000 de Nazareth quand c'est arrivé. Et puis, lui, il est parti complètement à l'opposé, vers la côte d'Espagne, dans un voyage qui prenait un an pour se rendre là-bas. C'est rien qu'à vous dire comment il avait décidé qui lui, il n'était plus prophète. Il avait abandonné Dieu. Dans sa tête, il n'était plus prophète. Jonas, hein? Il avait abandonné Dieu. Lui, il en avait fini avec Dieu, mais Dieu n'avait pas fini avec lui. C'est ça qu'on découvre quand on étudie les Écritures. Et puis, on avait fait une petite parenthèse sur le sérieux du livre de Jonas. Souvent, on entend des gens... c'est l'exhortation qu'on avait faite, si tu te souviens, après notre révision, papa, on avait parlé que souvent les gens, ils passent leur temps à argumenter sur le grand poisson, sur la baleine, ceci, ça. C'était-tu une baleine? C'était-tu un grand poisson? C'est-tu vrai? C'est pas vrai? Il y en a qui ont essayé de prouver, avec des faits non bibliques, que c'était possible qu'un homme soit avalé par une baleine. Et puis, il y a même des faits qui sont relatés que j'avais nommés. Mais ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'il y a une perte de temps incroyable sur un détail. Parce que le fait qui était le plus important, c'était que Dieu voulait amener la délivrance à Jonas. C'était pas le moyen qu'il prend. Il Il aurait pu envoyer un bateau, il aurait pu envoyer un radeau, il aurait pu prendre des dauphins, il aurait pu prendre n'importe quoi. Là, c'est un grand poisson. Mais c'est pas ça qui est important. C'est que Dieu avait pourvu à la délivrance de Jonas. Ça, c'est important. C'est pas le grand poisson. Et puis, on avait, au dernier partage, on avait tapé sur ce clou-là. On avait, excusez l'expression, on avait tapé sur le clou que les Écritures, si on leur donne pas les autorités aux Écritures, ben, on sera pas enseigné. Si je m'approche pas de ce livre-là, en pensant que c'est l'autorité, c'est la vérité pour ma vie, ben, c'est sûr que je serai pas enseignable. C'est sûr que je vais me mettre à discuter avec les Écritures, je vais me mettre à discuter avec les enseignements. Puis, si on avait fait une petite comparaison, tu sais, quand, dans le fond, on a quoi à prouver? Pourquoi est-ce qu'il faut prouver que c'est vrai le grand poisson ou c'est pas vrai le grand poisson? Moi, avant de le lire, je le sais que c'est vrai. Parce que mon Dieu, il y a la parole de Dieu, puis je sais que mon Dieu, c'est le testament qu'il nous a laissé, puis c'est la vérité. Puis tout a été fait avec la parole de Dieu. Est-ce que je vais remettre en doute la parole de Dieu? Si j'arrive, je m'approche en partant avec l'idée que je remets en doute ce qui est écrit dans le livre, est-ce que je vais être transformé par les Écritures? Je serai pas transformé par les Écritures, hein? Donc, si souvent les gens, on a vu que on passera pas trop de temps là-dessus, mais on avait passé un peu de temps à parler de ça. Et puis, on avait parlé aussi que le fait que Jonas ait survécu, c'était ça qui était miraculeux, tu sais. Et puis, on a le choix de croire au miracle ou de pas y croire. Mais si tu crois, si en partant tu y crois pas au miracle, il n'y aura pas de miracle dans ta vie, c'est certain. C'est sûr qu'il n'y en aura pas de miracle. Parce que le miracle, il est directement, la puissance du miracle dans nos vies est reliée directement et proportionnelle à notre foi. Donc, la puissance de Dieu va se manifester à travers ma foi. Qu'il t'en soit fait selon ta foi. Donc, c'est le miracle, c'est la même chose. Les miracles dans ma vie, c'est une question. Qu'est-ce qu'il dit souvent Jésus quand il enseigne, quand il finit d'enseigner? Crois-tu cela? Quand il dit aux gens, crois-tu cela? Si tu y croirais, ça arriverait dans ta vie. Et puis, c'est pour ça qu'on avait fait une pause dans l'enseignement pour dire, on va arrêter de se laisser déconcentrer par le grand poisson. On va voir c'est quoi l'enseignement de Jonas. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Et puis, je crois pas au miracle de Jonas. Si je crois pas à l'histoire de la grande baleine, ben moi, ou du grand poisson, excusez, parce que c'est pas indiqué la baleine, c'est marqué un grand poisson. Mais si je crois pas à ça, en partant, on avait trois questions, souvenez-vous. Est-ce que je crois au miracle de la croix pour la réconciliation de l'homme avec Dieu? Est-ce que je crois à la résurrection qui a vaincu la mort et Satan? Est-ce que je crois au baptême du Saint-Esprit, à la Pentecôte, qui permet la régénération, puis dans le nouvel an? Donc, ce n'est tout des miracles, ça. Jésus-Christ, là, il en fait encore des miracles aujourd'hui. Quand une personne accepte le Seigneur, et puis qu'on voit que sa vie est transformée, j'en suis un exemple, on a plusieurs qui sont des exemples, et nos vies ont été transformées, tous les gens autour de nous, ils ont pu dire, il s'est passé quelque chose dans la vie de cet homme-là ou de cette femme-là. Ben ça, c'est dans le fait, premièrement, d'accepter les autorités bibliques. Les Écritures sont là pour nous enseigner, ils ne sont pas là pour les argumenter, pour les contester, pour dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une parabole, c'est ci, c'est ça. Faut pas se laisser déconcentrer par les détails. Le grand poisson, c'est un moyen que Dieu a pourvu à la délivrance de Jonas. C'est tout. C'est pour ça qu'il est important dans le livre de Jonas. On va voir qu'il y a des enseignements beaucoup plus puissants que ça. On va voir ça ensemble. Donc, en gros, on avait un peu tapé sur ce clou-là. Donc, le miracle lui-même, c'est la puissance de Dieu révélée à travers notre foi. Et puis, notre Dieu, le seul grand Dieu qui a établi les lois de la nature et toute la création, il peut certainement, pour voir un grand poisson, me ramener au bord de l'eau. Certainement. Quand tu vois tout ce qu'il a créé. Donc, un élément crucial pour nos vies, c'est le miracle de Jésus-Christ, hein? C'est que Dieu a donné toute puissance à Jésus-Christ, qui règne encore aujourd'hui. Jésus-Christ, il règne encore aujourd'hui, puis il a rendu possible la nouvelle naissance, la régénération, puis le miracle spirituel est encore existant aujourd'hui. Amen. Jésus continue de sauver, guérir, donner une nouvelle famille aux gens. et puis nous faire grandir dans la grâce pour sa gloire et pour la gloire du Père. Éphésiens 3:21. Donc, dans le contexte, on peut interpréter Jonas avec l'assurance que Dieu voulait délivrer Jonas. Rien d'autre. Le poisson, le moyen, c'est pas important. La circonstance et la façon que c'est arrivé, c'est rien à comparer au miracle qui va arriver à Ninive, en quelques chapitres, quand on va arriver. Hein, vous savez ce qui s'est passé à Ninive. Hein? Jonas, il a juste dit 3-4 mots. Puis il y a 120 000 personnes qui se sont converties. Le plus grand réveil de la Bible. Il n'y a pas un réveil plus grand que ça qui est mentionné que dans le livre de Jonas. 120 000 d'un coup se sont convertis. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est le miracle de Dieu. Hein? Fait que c'est bien plus important qu'un grand poisson, ça. Ça, c'est bien plus important qu'un grand poisson. Donc, le miracle était plus que celui de Jonas, mais plutôt celui que Dieu voulait sauver Ninive du péché. Et puis, quand le Seigneur veut faire un miracle dans nos vies, c'est toujours parce qu'il veut en faire un plus grand à travers nos vies. Il veut nous envoyer comme il voulait envoyer Jonas. Amen. Donc, c'était notre révision. Et puis, aujourd'hui, ça s'appelle « Revenir à Dieu en prière ». Et puis, je vais commencer avec une citation, parce que c'est sûr et certain que dans la situation où on est, notre famille où on est, avec notre relation avec Dieu, on se placera certainement pas des œillères. À savoir, eux autres sont catholiques, eux autres sont... Mais je vais vous citer, je vais vous faire une citation, je vais vous dire c'est de qui après. Vous me direz si cette personne-là était connectée avec Dieu ou n'était pas connectée avec Dieu. C'est une situation qui a été faite, vous allez avoir des indices, le 12 mai 82. Et ne disons pas à la suite un commentaire sur le livre de Jonas. Et ne disons pas que c'est Dieu ainsi qui nous punit. Au contraire, ce sont les hommes qui préparent eux-mêmes leur châtiment. Dans sa sollicitude, Dieu nous avertit et nous incite à prendre le bon chemin, respectant la liberté qu'il nous a donnée. C'est pourquoi les hommes sont responsables. C'est-tu pas pire? C'est sœur Lucie qui a déclaré ça, c'était une voyante de Fatima. Une des trois sœurs qui avait, vous voyez que c'est certainement ce texte-là, pour moi, il est très, très vrai. Il est très, très vrai. Ça, tu connais pas l'histoire de Fatima, Marie. T'es trop jeune, mais on va t'enseigner ça. Tantôt, on va t'en parler. Et puis aujourd'hui, c'est Jonas 2, versets 1 à 10. Revenir à Dieu en prière. Et puis Jonas, il a tenté de fuir loin de Dieu. Maintenant, il courut vers Dieu dans la prière, le psaume, et puis c'est ça que j'ai trouvé fantastique, c'est que Jonas, il a littéralement écrit un psaume. Quand il s'est rendu compte où il était allé, si vous regardez au chapitre 2, je pense qu'on va le lire, on va le lire ensemble. Et puis, étant donné qu'il était allé si loin, parce qu'on va voir que ensemble ce soir qu'il est mort, Jonas est allé descendu dans l'Hadès. Et puis, l'Hadès, c'est le séjour des morts. Et puis, mais seulement ça a permis que Jonas puisse, l'expression du cœur de Jonas a pu sortir. Jonas, dans le ventre du grand poisson, pria l'Éternel, son Dieu, dans la version Louis II. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. » Là, il était désespéré. Mais il dit, « Je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. La barre de la terre m'enfermait pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au tenant de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, si le salut vient de l'Éternel. » L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Mais ce texte-là, c'est digne d'un psaume. Trouvez-vous? La façon que ça a été écrit, c'est digne. Ça ressemble beaucoup à un psaume. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à un psaume. Et puis, il est rempli avec des expressions similaires rencontrées dans les psaumes et les paroles de dévotion de son peuple. Les psaumes expriment le psaume de Jonas exprime la redécouverte de Jonas de l'omniprésence de Dieu. Et là, il a vraiment, quand il est descendu au fond, il a vu c'est qui était Dieu. Parce qu'il a vu il a vu où il était. Il a vu où ce qui est la gravité de son choix, où ce que son choix l'amenait. Et puis de sa grâce pour ceux qui s'adressent à lui dans la détresse. Donc, il a vu vraiment l'omniprésence de Dieu et la grâce de Dieu. On a tous dit à un moment donné, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Hein, on a tous parlé de ça. On a tous dit ça. Et puis, dans des moments où nous avons trébuché, qu'on dit, où nous sommes tombés, le visage contre terre, on tombait à pleine face, comme on dit, en se sauvant de Dieu. On se sauve de Dieu, puis là, dingue, on tombe, puis là, vraiment, on est vraiment désemparés, on ne sait plus quoi faire, puis là, il nous reste juste à s'adresser à Dieu. Et puis Dieu, il nous répond. C'est ce que je partageais avec Claudia. C'est dit souvent c'est dans nos moments de détresse qu'on va vivre les plus grands moments avec Dieu. Et puis c'est quand, c'est dur à dire, c'est un peu dommage de dire ça, mais c'est quand l'homme a des tribulations qui se tournent vers Dieu. Et puis, la prière de Jonas, ça nous guide pour avouer nos besoins à Dieu dans notre détresse. C'est à la fois une prière de remerciement et d'action de grâce, mais c'est aussi une prière de la délivrance. Jonas était sauvé de la noyade. Il était mort. Il était dans le séjour des morts. Hein. Mais il n'était pas encore en toute sécurité sur le rivage. Tout d'abord, la prière nous montre comment prier au milieu de l'échec quand notre détresse a été causée par notre propre désobéissance. Souvent, quand on est dans la misère, c'est souvent parce qu'on a fait. On a désobéi à Dieu. On a désobéi à ce que Dieu voulait pour nous. Puis ça nous place dans des situations. Malheureusement, que Dieu, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a créés libres, il va nous laisser aller, puis il va attendre qu'on crie à lui pour pouvoir intervenir dans nos vies. Même s'il nous protège, sa main est toujours sur nous quand même. C'est souvent dans ces moments-là que c'est le plus difficile de prier, quand on est off. Quand on est off, là, c'est le moment où c'est qu'on va avoir plus de difficultés à s'adresser à Dieu. Soit que l'ennemi vient nous dire, ben voyons, tu peux pas, tu sais, t'écouteras pas. De toute façon, regarde ce que tu viens de faire. T'es en train de te sauver de Dieu. T'sais? Et puis là, il vient te faire à croire que tu peux pas t'adresser à Dieu. Ou bien, si tu l'adresses, il dit, on t'écoutera pas, c'est sûr. Puis si on voit quelqu'un comme Jonas, après ce qu'il avait fait, qui pouvait s'adresser à Dieu, puis Dieu l'entend, certainement qu'on peut le faire, nous aussi. Ça nous enseigne que nous aussi, on peut le faire. Dieu nous répond même aux problèmes qui ont été imposés par nous-mêmes. Hein? Deuxième chose qu'on nous apprend le psaume de Jonas, c'est de remercier le Seigneur de nous confronter dans notre obéissance, dans notre désobéissance, excusez-moi. Donc, le Seigneur, quand on désobéit, là, il va arriver une tempête. À un moment donné, il va souffler, puis le vent va... Et puis, le Seigneur va venir nous confronter. Il va venir faire une tempête. Il va s'élever sur une tempête sur la mer, puis la tempête a convaincu Jonas qu'il pouvait pas échapper à Dieu. Mais lui, là, il en avait fini avec Dieu. Là, il n'était plus prophète. On a vu dans les derniers partages, quand les gens ils demandent qui t'es, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'avais jamais dit qu'il était prophète. Il a dit, j'avais jamais dit ce qui restait. Il a dit, je suis hébreu, je crains l'Éternel. Lui, sa rébellion, par contre, avait été mise en lumière. La tempête, c'est pour mettre en lumière la rébellion. Il y a une rébellion qu'il fallait que soit mise en lumière de Jonas. Et puis, en fait, c'est une grande source d'espoir pour nous. Parce que le Seigneur ne nous permettra pas d'aller au fond de notre folie, d'aller au bout de notre folie. Il va venir, hey, wow, c'est pas par là, là. On passe pas par là. Et puis, ça devrait être sécurisant pour nous autres. Jonas, il avoue, honnêtement, qu'il est dans le séjour des morts, au verset 2. Il avoue qu'il est dans le séjour des morts et il est mort. En raison de l'intervention de Dieu, Jonas exprime sa gratitude au lieu de périr dans la tempête provoquée par ses efforts pour échapper à Dieu, il fut jeté dans la mer afin qu'il puisse voir l'erreur de ses mauvais choix. Donc, puis de les confesser. Il n'y a aucun doute dans l'esprit de Jonas à savoir l'origine de la tempête puis qui l'a jeté dans la mer. Si on regarde, il dit quand il prie, il dit « Tu m'as jeté dans la mer. » Il dit pas « Les marins m'ont jeté dans la mer. » Il sait que c'est Dieu qui l'a jeté dans la mer. Et puis, verset 2, 3 ou 2, 4, là, ça dépend de la version, c'est « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné toutes tes vagues. » Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Donc, c'était le plan de Dieu, puis c'était aussi la mer de Dieu qui appartenait à Dieu. Donc, Jonas, il était comme mis en face qu'on ne peut pas se sauver de Dieu. Tu es partout. Tu ne peux pas me sauver de Dieu. C'est impossible. Et puis, lorsque Dieu nous confronte aux problèmes dans notre vie, ben ces problèmes-là sont souvent causés par nos mauvais choix. Et puis, c'est crucial de le remercier quand il vient nous confronter. Parce que c'est par amour qu'il vient le faire. Quand il vient nous mettre une tempête pour dire, hey, « Es-tu sûr que tu t'en vas dans la bonne direction? » Ben sur le coup, on n'est pas porté à dire merci. Hein. Mais on sait que c'est toujours pour nous bénir qu'il vient faire ça, parce qu'il sait qu'on s'en va dans la mauvaise direction. Et puis il vient nous mettre face, il vient nous mettre face à ce qu'on vient de faire, ou ce qu'on va. Il dit, t'es sûr que tu peux pas aller là. T'sais. Mais c'est un soulagement, c'est une pression qui est relâchée quand ça arrive. Trouvez-vous? Parce que quand les choses sont portées à un point de crise, t'sais, ça, là, la tempête, là, c'est comme une crise qui arrive dans un groupe. Et puis, là, il y a une crise qui éclate. C'est parce que Dieu veut mettre quelque chose en lumière. Quand il y a une crise qui éclate, Dieu veut dire, « Oh, voyez, ici, il y a un problème. » Et puis, il veut mettre quelque chose en lumière. Et puis, ça, il faut que ça soit mis au grand jour. Et puis, on peut faire le choix de faire quelque chose quand ça arrive pour, de notre côté, pour essayer de résoudre ce conflit-là. Quand il y a un conflit ou une crise, on peut essayer de faire tout ce qu'on a eu comme enseignement pour essayer de résoudre ce conflit-là. Et puis, plus profondément, Dieu aime les circonstances qui nous exposent à ce que nous faisons dans notre rébellion contre sa volonté. Il aime ces circonstances-là, le Seigneur. Et puis pour nous, ça signifie pas que, par contre, même que s'il a mis quelque chose en lumière, que ça a été traité, qu'il y a immédiatement une libération des remords. Il y a des conséquences, c'est sûr. Hein? Des conséquences aux choix qu'on fait. Puis Jonas, il poursuit dans le verset ensuite, le 4 à 6, à raconter ce qui se passait dans sa tête. Quand il se débattait, pour vraiment, on va analyser ça verset par verset, parce que ça nous enseigne beaucoup comment il se sentait. C'est très important de savoir comment Jonas se sentait. Quand il s'est retourné, puis il a prié son Dieu. Et puis, quand il se débattait dans la mer, il a finalement commencé à se noyer, parce que il sent le désespoir extrême d'être jeté désespérément loin de la présence de Dieu. C'est ça qu'il a vu. Quand il était jeté dans la mer, puis il a descendu, lui, c'était loin de son Dieu qui s'en allait. Là. Il s'en allait dans l'Hadès. Il a dit, j'étais dans le séjour des morts. Il n'était pas dans la présence de Dieu, j'étais dans l'Hadès. C'est quoi la définition de l'enfer? C'est l'Hadès. Hein? C'était le séjour des morts. C'est ce mot-là qui est utilisé. Donc, Jonas, il y avait eu un aperçu de ce qui se passait là. C'est pour ça que vraiment, là, il a quand même s'est mal loué son Seigneur qu'il l'avait vraiment délivré de ça. T'sais. Mais il fallait que Jonas aille là pour revenir à Dieu. Et puis, il y a des moments dans notre vie où ça va arriver. Il va falloir qu'on touche au fond. Vraiment au fond pour pouvoir revenir à Dieu. Et puis là, il a dit, je suis chassé loin de ton regard. Et puis, il venait de voir que ça signifiait qu'il pouvait être condamné par Dieu. Il savait qu'il était condamnable avec le choix qu'il venait de faire. Puis il savait qu'il aurait pu passer l'éternité séparée de Dieu. Il venait de goûter au séjour des morts. Et puis, il dit au verset 5, les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme. L'abîme m'a entouré. Les algues ont enveloppé ma tête. Savez-vous comment est-ce qu'il s'est senti pris? Dans le fond, c'était vraiment, là, il s'est senti vraiment. Il était vraiment, tu peux pas descendre plus bas que ça. Le verbe pour environner, c'est A-P-H-A-P-H. Et puis, c'est les mêmes verbes qui est utilisé dans le psaume 18-4, puis psaume 116-3. Ça veut dire entouré par les liens de la mort. Il a vraiment senti les liens de la mort. Et puis, vous allez le voir dans les feuilles que je vais vous donner. Et puis, les végétaux du fond de la mer étaient tordus autour de la tête de Jonas. C'était spécial. Hein? Ça nous donne une idée. Puis le verset 6 place Jonas sur le fond de la mer. Il dit, je suis descendu jusqu'au fondement des montagnes. Donc, il était vraiment rendu, là, lui, puis tu peux pas aller plus bas que ça. Il était vraiment, il a eu, quand il a pris conscience, qu'est-ce que c'était être séparé de son Dieu? C'était quoi de prendre une décision? Là, il a vu c'était quoi la conséquence de sa décision qu'il avait prise de fuir Dieu. Puis Dieu, il a montré, tu veux-tu vraiment aller là? C'est-tu vraiment là que tu veux aller? Et puis là, il a crié à Dieu, hein, parce qu'il faut revenir à Dieu. Puis souvent, Dieu va permettre ça dans nos vies. Parce que si on le vit pas, on criera pas à Dieu. Et puis Dieu va permettre qu'on descende, puis qu'on descende dans le fond, pour qu'on puisse revenir à lui. Et puis, Jonas sent qu'il a atteint les profondeurs de l'enfer, à partir de laquelle il n'y a plus de libération possible. Pour lui, c'était terminé. Il dit, les barres de la terre s'étaient refermées sur moi pour toujours. C'est au verset 6 qu'on voit ça. Donc, lui, là, il avait toujours entendu parler que les portes du séjour des morts, une fois qu'ils étaient refermées, c'est fini. Hein? Et puis, ça pouvait pas être réouvert. Puis Jonas s'est descendu au fond, puis il a abandonné. La mer s'était refermée sur lui comme une tombe. C'était comme s'il avait été enfermé dans une tombe, puis il était séparé de Dieu. Puis avant, c'est ce que j'expliquais tantôt, avant de passer dans le reste du psaume de Jonas, parce que c'est digne d'un psaume, on doit identifier le désespoir du prophète. Il était vraiment désespéré. Quand il était là, il pouvait pas être plus bas que ça, dans les profondeurs de la mer. Si on passe à la partie suivante, trop rapidement, on va manquer ce que le psaume a à nous apprendre sur les trésors des profondeurs. C'est important. Quand on doit descendre au fond, des fois, on doit descendre au fond pour mieux se tourner vers Dieu. Et puis, Dieu nous traque et nous arrête sur notre chemin en fuite de l'obéissance, quand on désobéit. Et puis, alors, il nous confronte avec ce que nous faisons. Il vient nous confronter. Il fait ça avec ses enfants, hein? C'est dans Hébreux 12 qui parle de ça aussi. Et puis, il nous permet également de passer de la mort dans notre entêtement. Par la mort, excusez. Il va nous permettre de passer par la mort dans notre entêtement. C'est alors que nous prions. Nous sommes conscients de devoir changer. On sait que là, on vient de faire une grosse bêtise. Dieu est en train de nous montrer que c'est vraiment une grosse bêtise qu'on est en train de faire. Puis là, on devient conscient du problème que nous avons créé. On va avoir un développement qui va être plus intéressant aussi quand il parle, dans le livre, dans le psaume, il parle d'un idole. Hein? Ceux qui sont, on va voir c'est à quoi ce qu'il veut dire par là. Moi, ça m'a béni. Là. Quand Jonas a abandonné l'espoir de survivre, Dieu est intervenu le sauver. On voit ça dans le, il dit, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Là, il a trouvé le respect pour son Dieu. Et puis, le prophète a reçu la miséricorde que lui ne voulait pas prêcher à Ninive. Fait que le prophète, il venait de recevoir la miséricorde de Dieu, puis c'est cette miséricorde-là que lui, il voulait pas aller prêcher à Ninive, il voulait que les gens meurent à Ninive. Donc, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple, au verset 7. Le Seigneur a permis à Jonas de se rendre au point de s'évanouir, quand sa vie s'en allait et était sur le point de perdre conscience. Il l'a laissé vraiment aller là, jusqu'à ce temps que Jonas il pense c'est fini. Tu sais. C'est fini, là, je viens. Mais Jonas s'est rendu compte quand même de la gravité de son geste. Et puis Dieu nous amène à l'endroit où nous admettons que nous avons plus d'autre espoir. Vous n'avez pas pensé à moi là, quand je me suis converti. Parce que c'était vraiment rendu à une place où c'est que moi, j'avais plus d'espoir dans ce monde-là. Il n'y a plus rien qui pouvait me garder dans ce monde-là. Il n'y a plus rien qui m'attirait, plus rien qui pouvait me motiver à rester ici. Et puis, c'est quand j'ai été si bas que ça que je me suis tourné vers Dieu. C'est la même chose. Mais je n'étais pas, c'est pas tout à fait la même chose, parce que Jonas, il était prophète avant, il était sauvé. Là. Mais moi, je n'étais pas sauvé. C'est de même que j'ai été sauvé, mais c'est un peu comparable. Tu sais, quand Dieu permet à ce qu'on descende assez bas, c'est parce qu'il veut se révéler à nous. Donc, il intervient par une crise majeure dans notre vie. Quand on est sur le mauvais chemin, il va arriver une tempête. Il va arriver une crise. Et puis, il nous permet de découvrir le don de l'obscurité. De l'obscurité. Il nous permet de toucher à l'obscurité. C'est quoi le... Voilà où se mène ton choix. Dans l'obscurité. Et puis, la mort à soi-même et à notre entêtement. Parce que ça a tout un enseignement, ça, Jonas. Ça. Quand Jonas il est mort, il est mort. Jonas est mort. Donc, il a été renouvelé dans l'homme nouveau. Hein? C'est Dieu, c'est bien différent. Et puis, ensuite, on ressuscite, après qu'on ait vu ça, on ressuscite de notre tombeau. Donc, Dieu guérit pas la maladie spirituelle de Jonas. C'est pas ça qu'il a fait, le prophète, avant que celui-ci ait réalisé à quel point il était malade. Donc, pour guérir Jonas, il fallait que Jonas prenne conscience à quel point il était malade. Et puis ça, il fallait qu'il touche au fond. Il fallait que Dieu lui permette de toucher au fond. Mais après ça, il l'a guéri. Après qu'il ait pris conscience. Dans le verset 8-9, Jonas partage les trésors qu'il a appris dans les profondeurs. Il a été confronté à son entêtement et à son infidélité. Donc, la leçon apprise, c'est que l'infidélité de Jonas est devenue une idole. C'est pour ça qu'il parle d'une idole. Je trouve ça intéressant, hein? C'est pour ça que Jonas, il dit, dans le verset, excusez, je vais vous dire ça. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. C'est que son entêtement pour pas aller à Ninive était devenu une idole. L'idée qu'il voulait de pas aller prêcher à Ninive parce que c'était des gens méchants, c'était devenu quelque chose entre lui et Dieu. C'était donc devenu une idole. Puis là, il n'avait pris conscience. C'est pour ça qu'il dit, ceux qui s'attachent à des idoles s'éloignent de la miséricorde. Parce que je m'en allais dans le fond, moi. Et puis, si j'aurais continué dans mon entêtement. Et puis, ça a failli coûter sa relation avec son Dieu. Cette idole-là. Cet entêtement-là. Et puis, par chance que Dieu est toujours fidèle, inébranlable dans la miséricorde. Parce que nous autres, on l'est pas. Donc, il s'agit d'un nouveau Jonas qui sort de là. Et puis, qui avoue sa loyauté envers Dieu. Dans Jonas 2, verset 9, il offrira des sacrifices. Il offre des sacrifices d'action de grâce, avec des cris d'action de grâce. Il va exprimer son action de grâce. Il renouvelle ses vœux envers le Seigneur. Et puis, son flirt avec la mort fait qu'il revient en courant vers Dieu. Avec une intensité personnelle, il pouvait maintenant dire, l'Éternel est mon salut. Dieu est mon salut. Parce que vraiment, ça y avait, il était pas assez proche. Il était prêt à obéir et à partager avec Ninive la miséricorde qu'il avait reçue lui-même, qu'il venait de recevoir. Et puis l'Éternel parla au grand poisson, au poisson, et il a vomi Jonas sur la terre ferme. Et puis on achève, et puis on imagine Jonas sur la plage, et puis frémir d'effroi en raison de ce qu'il avait vécu, quand le poisson est venu le vomir, et puis la puanteur du poisson accrochait ses vêtements. Et puis, est-ce que ça risquait d'influencer les païens de Ninive? Ah! La petite sœur Carmen qui arrive. Et puis, tu nous cherchais, hein? c'est ça. Bon, on achève, Carmen. C'est pas grave, j'ai des feuilles. On imagine Jonas, qu'on pourrait apprendre qu'il est sur la plage, il frémit des fois en raison de ce qu'il vient de vivre. Et puis, la puanteur du poisson accrochait ses vêtements. Puis, est-ce que ça risque d'influencer les païens de Ninive, ça? Certainement pas. Sans la puissance et la miséricorde du Seigneur. Hein? Et puis, j'avais deux... on va terminer, j'ai presque terminé. Mais j'avais deux choses qu'on pouvait méditer suite à ce que ça nous enseigne dans le Jonas, sans passer par la mort. Est-ce que c'est possible de servir Dieu? La mort à soi-même. Hélène a dit la mort à soi-même, puis Claudia a dit, ouais. On peut pas servir Dieu si on n'est pas mort à soi-même. On pourra pas. Il va toujours avoir de quoi qui va se mettre entre nous et notre Dieu. Parce qu'on va toujours avoir de quoi de plus important. Entre nous et Dieu. De quelque chose qu'on va trouver plus important que de servir Dieu. Et puis, Jonas s'est retrouvé seul avec Dieu. Dans ce Dieu est venu le rencontrer. Quel autre exemple de la Bible? Pas de la Bible qu'on a où qu'une personne s'est rencontrée, s'est ramassée seule avec Dieu. Jacob. Puis Jacob, il avait déjà vu Dieu. Il voyait, il avait vu le songe là, des anges qui venaient chercher des hommes. Mais Il avait dit à Dieu, bénis-moi, bénis-moi, j'ai donné ma dîme. Il s'était pas converti à Dieu. Il avait pas donné sa vie à Dieu. Jusqu'à au jour que Jacob, il a rencontré son Dieu. Et un jour, tu te ramasses seul avec Dieu. Et tu rencontres ton Dieu. Et puis, ce jour-là, il savait ce qui s'est passé. Il a lutté toute la nuit. Et puis, il a demandé d'être béni encore. Mais là, le Seigneur, il a dit, si tu veux que je te bénisse, il va falloir que... Je me souviens pas des paroles exactes, je veux dire, là, qu'est-ce qu'il avait dit. Et tu veux que je te bénisse, absolument? Il a dit oui. Mais il avait cassé, il avait déboîté le membre. Il y avait tout un enseignement par rapport à ça, parce que c'est le membre le plus fort. Ils se sont battus toute la nuit, puis il a fini. Pour le bénir, il fallait qu'il casse. Il fallait qu'il brise. Et puis, il fallait qu'il brise Jacob. Puis souvent, c'est le travail que Dieu vient faire dans nos vies. Pour nous bénir, il faut qu'il nous brise. Il fallait qu'il brise Jonas. Il fallait que Jonas descende dans le séjour des morts pour pouvoir se repentir. Jonas est descendu jusqu'au séjour des morts. Puis là, il a vu quel était l'impact de ses choix qu'il avait fait. Et puis là, il s'est tourné vers son Dieu. La même chose pour Jacob, quand il s'est ramassé tout seul. Il a envoyé ses enfants, ses femmes, ses troupeaux tout en avant pour amadouer Ésaü. Sauf qu'Ésaü avait dit, je te tuerai. Puis là, il fallait qu'il... Hein, il était rendu seul avec Dieu, fait qu'il était obligé de crier à Dieu. Et il a parlé à Dieu. Mais Dieu est venu le rencontrer. Donc, il a dit, est-ce que c'est possible de servir le Seigneur si on n'est pas passé par la mort? La mort à soi-même. Je vous laisse là-dessus. Ça va être notre... méditation. Hein? Jusqu'au prochain partage. Puis on va terminer en priant, si vous voulez. Merci, Seigneur, de ne pas nous laisser aller dans notre folie. Merci de nous ramener vers toi quand on part. Merci que toi, t'es fidèle. Puis que nous, on peut se fier à toi. Les histoires comme Jonas, ça nous encourage. Seigneur, ça nous encourage à continuer. Parce qu'on sait que tu nous laisseras. Tu nous aimes tellement que tu nous aimes assez pour pas nous laisser aller jusqu'au bout de notre folie. Puis on veut te remercier pour ta fidélité, Seigneur, pour ta miséricorde. Parce que nous, on n'est pas fidèles, mais toi, tu es fidèle. Et puis, c'est ce qu'on découvre quand on étudie les Écritures, c'est qu'on peut toujours se fier à toi. Et puis, si tu as entendu ce message aujourd'hui, que tu aimerais avoir cette relation avec Dieu, bien, la Bible dit qu'au jour du même, si tu veux, tu peux recevoir le cadeau de la vie éternelle. Premièrement, tu dois savoir qu'il y a une condamnation qui pèse sur l'humanité. Présentement, et puis que l'humanité a besoin d'un sauveur, et que l'homme ne peut se sauver par lui-même. Donc, dans Romains 3, 23, ça dit que tous sont privés, sont séparés de Dieu. Et puis, Jésus lui-même a dit que c'était impossible à l'homme d'être sauvé par ses propres forces. Il n'y a rien que tu peux faire dans ta vie. Il n'y a aucune œuvre que tu peux faire qui va faire que les portes du ciel vont être ouvertes à ta mort. Par contre, dans Jean 3, 16, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis dans Jean 1, 12, ça dit à celui qui l'a cru et qui l'a reçu. Il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Le mot pour recevoir, reçu, c'est prendre comme partenaire, pour te donner une idée. Et si aujourd'hui, tu reconnais que tu as besoin que tu es pécheur, que tu as besoin d'un sauveur, et puis que tu reçois Jésus-Christ comme partenaire pour ta vie, ben, la Bible dit qu'aujourd'hui même, tu deviendras un enfant de Dieu et tu passeras l'éternité dans la présence de Dieu. Et puis, si tu veux, on va te diriger dans une prière. Et puis, si tu fais cette prière dans ton cœur, sincèrement, Dieu regarde à ton cœur. Et puis, si tu pries comme si tu parles, comme si tu parlais à ton Père, et tu l'invites à venir vivre en toi, Jésus-Christ, à venir dans ton cœur, à venir habiter avec toi comme partenaire de vie, ben, aujourd'hui même, tu deviendras un enfant de Dieu. Et tu passeras l'éternité dans la présence de Dieu. Et puis, si tu veux, on va te diriger dans une prière et tu n'as qu'à prier avec nous. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Je le crois, je l'accepte Seigneur, viens dans mon cœur et sauve-moi. Seigneur, je veux te prier pour les gens qui ont fait cette prière à la maison, que tu touches leur cœur maintenant, puissamment, qu'ils ne puissent jamais douter qu'ils sont sauvés, qu'ils ont la vie éternelle. Envoie-leur des ouvriers, Seigneur, qu'ils deviennent tes disciples et qu'ils deviennent le sel et la lumière pour ta gloire, Seigneur Jésus, compris. Amen.
Amen.
Merci beaucoup.